Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu.
Je suis ravie d'être ici pour ce dernier panel de la journée qui s'appelle « Attention, se mobiliser pour gagner ». Je vais donc présenter tout de suite rapidement nos panélistes pour laisser le plus de temps pour la discussion. À ma gauche, j'ai Carlene Pickard qui est avec le Conseil des Canadiens. Bienvenue. À côté d'elle, Al-Hassan Adam, qui est coordonnateur du secteur sud de la Coalition nationale contre la privatisation de l'eau au Ghana. Alors, il vient de loin, pas du Ghana maintenant parce qu'il étudie présentement au Royaume-Uni, mais il est très actif aux militants sur les questions de privatisation. On est très heureux de vous avoir ici sur notre panel. Et Anil Naidoo, qui est aussi avec le Conseil des Canadiens, et qui a organisé le projet Planète Bleue au Conseil des Canadiens, qui est une campagne mondiale qui conteste aussi la privatisation partout dans le monde. Et enfin, Shelley Gordon, qui est chercheur et meneur de campagne extraordinaire avec le Syndicat canadien de la fonction publique basé à Toronto. Alors, merci beaucoup à tous. Alors, nous sommes ici pour parler des succès en matière d'eau. Je vais donc commencer avec Carlene et puis ensuite Shelley pour que vous nous parliez des luttes centrales ici au Canada. Carlene, vous avez travaillé étroitement avec le Conseil des Canadiens et plusieurs collectivités, des bonnes coalitions à Whistler sur le dossier de la privatisation de l'usine d'épuration des eaux usées là-bas. Pouvez-vous nous dire ce qui était en jeu au juste et ce qui est arrivé? Eh bien, je suis vraiment ravie de pouvoir parler du travail qu'on a fait à Whistler de janvier à juin. C'est à peu près dans ce temps-là que j'ai participé à la campagne, en 2006. Et depuis quelques jours, je repassais mes notes et on a organisé toutes sortes d'activités agréables pour mobiliser la communauté sur cette décision qui était pas mal finale, mais une décision prise par la municipalité de Whistler. Donc, la municipalité qui voulait privatiser et mettre à jour ou actualiser leur usine d'épuration. Au début de 2005, un an avant qu'on s'implique, ils avaient décidé de dépenser 24 millions de dollars pour avoir un partenariat public-privé à partir d'un modèle désigné. Donc, un consortium de compagnies qui allait faire l'actualisation, les travaux, et ensuite, ce serait un consortium de compagnies privées qui ferait tout ce travail et, à la fin de tout, serait en contrôle du fonctionnement de l'usine d'épuration. Et, en fait, donc, le service aurait été transformé en service privé et non plus public. Alors, les gens de Whistler, une fois qu'ils ont compris ce qui se passait et ce que la municipalité avait en tête, les gens ont fait ce que je trouve incroyable. On sautait sur le téléphone et on téléphonait au Conseil des Canadiens et quelqu'un en Colombie-Britannique. Moi, j'étais à Vancouver dans le temps comme organisatrice régionale. Ils ont dit qu'ils étaient donc très inquiets qu'on allait privatiser leur service de distribution d'eau et qu'ils avaient besoin d'aide de la part de nos deux organismes. Nous y sommes allés. Nous avons sonder le terrain un petit peu et je vais ensuite vous parler de ce qui s'est passé au cours des 6 mois suivants de façon un peu plus détaillée tout à l'heure. Mais finalement, vers la fin de juin, le 12 juin, ils ont été forcés de tenir une réunion du conseil municipal. Ils ont décidé, à cause des pressions de la population, qu'il n'y aurait plus de PPP et que le système resterait dans les mains du système public. Et Shelley, vous avez participé à la riposte contre la privatisation de l'usine d'épuration des eaux usées. Et on revient toujours au sommet d'il y a 10 ans. Et c'est vraiment une longue histoire ici qui avait commencé avant, il y a 10 ans. Ça a commencé il y a plus d'une décennie, toute cette histoire. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce qui s'est passé au juste? Bien sûr. Je ne vais pas raconter l'histoire de long en large, mais bon. Au premier sommet de l'eau, en 99, la plus grande privatisation en Amérique du Nord d'un système de distribution d'eau, alors, était le système de Hamilton. On avait donné le contrat en 95 à un fournisseur unique en disant que c'était une initiative de développement économique pour la ville de Hamilton. Et la compagnie qui avait été choisie au départ était une compagnie locale. La compagnie a été rachetée par une compagnie internationale et en 10 ans, le contrat était pour une durée de 10 ans. Et en 10 ans, ils ont passé 6 ou 8 différents propriétaires. Et en 2004, c'était American Water qui exploitait l'usine de Hamilton. Le syndicat a surveillé cela de près pendant les 10 ans. Et en 2004, lorsqu'on est retourné au conseil municipal pour voir ce qu'il allait décider pour 2005, le syndicat a parlé et a maintenu auprès de la municipalité qu'il faudrait reprendre la direction de cette usine parce que ça avait été un échec. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais en septembre 2004, ils ont décidé de reprendre la direction qui est publique depuis 2005, janvier 2005. Et Amil, je pense que vous avez participé à plusieurs campagnes dans plusieurs pays. Je me demandais si vous pouviez vous concentrer sur l'Amérique latine. Parce qu'on a eu vraiment de grands succès là-bas et de grandes luttes aussi. Oui, on parle de l'Amérique latine comme étant le cœur de notre mouvement pour de bonnes raisons. Si vous regardez toutes les histoires inspirantes, il faut commencer par Cochabamba, ce qui s'est passé là-bas avec le décès malheureux de jeune de 17 ans qui faisait une manif bien calme. Ça a galvanisé tout un mouvement autour de cette question pour la question du droit à l'eau. Cochabamba n'est pas une histoire de succès parce que on n'a pas obtenu encore de bons systèmes de distribution d'eau. On espère toujours, mais ce que ça a inspiré, par contre, dans toutes les Amériques et partout dans le monde, ça a inspiré des mouvements. Et ce qui s'est passé en Uruguay après, bien des choses se sont passées à la suite les unes des autres, mais 300 000 signatures que nos amis d'Uruguay ont obtenues et nous ont appuyés de loin. On a obtenu un changement de la Constitution pour reconnaître l'eau comme étant un droit humain, mais aussi un service public. Il fallait que le système demeure public. Il y a eu des changements profonds dans ce pays. Et plus tard, la même chose s'est passée en Colombie. 3,5 millions de signatures ont été recueillies là-bas. Et ça continue. Et ça aussi, ça fera l'objet d'un référendum. En Colombie, on voit des gens avec qui on a travaillé là-bas à l'époque, qui sont maintenant à des postes de ministres. Oscar Rivas au Paraguay est ministre de l'Environnement. Monsieur Da Costa au Brésil, nous avons, Claude s'en souviendra, et Maude, quand on était à Kyoto, Evo Morales était là, qui est maintenant le président de Bolivie. Et il travaille étroitement avec nous. L'ambassadeur de Bolivie est un bon ami à nous. Enfin, on a des gens maintenant qui sont haut placés. Après des années de lutte, ont enfin obtenu une reconnaissance pour leur travail, mais qui sont maintenant en mesure de provoquer des changements de politique. Et par exemple, les gens avec qui on a travaillé à Istanbul, plusieurs gens du SCFP ont travaillé avec des ministres du gouvernement dans plusieurs de ces pays pour constituer cette coalition de gouvernement progressiste. On a donc... On est beaucoup plus fort maintenant grâce au travail qui a été fait en Amérique latine. On s'est constitué dans quelque chose qui s'appelle Red Vida, qui est un acronyme pour la défense de l'eau, les droits et la défense de l'eau en espagnol. Et c'est donc une base, cela sert de base très solide pour plusieurs autres dans la région. Et l'Afrique, le Ghana surtout, vous avez été très actif dans la lutte contre la privatisation au Ghana et aussi le réseau d'eau africain. Hein? Hassan, vous avez beaucoup participé à cela. Pouvez-vous nous dire ce qui a donné naissance au réseau et ce qui s'est passé au Ghana particulièrement? Au Ghana, on a lancé une campagne en 2001 pour lutter contre les contrats de location à des compagnies privées. Après, à peu près 9 multinationales étaient intéressées à la privatisation de la compagnie de distribution d'eau. Alors, on a pu insister auprès du gouvernement. Pendant 6 ans, on leur a dit on a décidé qu'ils ne pourraient pas privatiser. Et en 2006, le gouvernement est revenu sur réexaminé son plan et toutes les compagnies privées, Bywater, Suez, toutes sont sorti, ont quitté, citant les activités, la campagne que nous avions lancée contre eux à l'échelle internationale comme l'une des raisons, parce qu'on avait des missions d'enquête, d'organiser, des communiquer avec les médias, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après leur retrait, il y a une publication qui s'appelle International Water Intelligence, qui est un journal du secteur privé qui fait des sondages à l'échelle internationale pour regarder les concessions qui sont libres, et ils informent les compagnies privées où elles peuvent investir. Et au Ghana, ils ont dit que la campagne contre la privatisation était tellement forte que les risques politiques au Ghana étaient trop élevés pour des investissements privés. Et c'est aussi l'une des questions qui a incité la Banque mondiale à changer le contrat. Ils ont dû donc tenir compte maintenant des compagnies publiques. Et c'est un petit truc maintenant qu'on pourra peut-être discuter plus tard. Les compagnies publiques sont reconçues pour accepter des contrats de service d'une autre compagnie publique. Ainsi, techniquement, on ne peut pas les appeler des projets de privatisation parce qu'ils disent non, ce sont des institutions publiques, mais en fait, elles travaillent en fait dans le cadre du secteur privé. Alors ça, c'est un gros problème contre lequel nous luttons aussi. Alors après notre succès ou semi-succès au Ghana, on a décidé de mobiliser d'autres pays africains, parce qu'il y avait alors le Cameroun, la Tanzanie, qui étaient sur la voie de la privatisation. Alors, en 2007, le Forum social mondial a eu lieu à Nairobi. On avait 24 pays africains qui allaient se rassembler pour former le réseau d'eau africain. Et ce réseau d'eau est très important pour appuyer les campagnes au Ghana, en Afrique du Sud. Et peu de temps après 2007, en novembre 2007, nous avons eu notre première Assemblée générale annuelle en Afrique du Sud. On est allé au Soweto aussi pour diriger une campagne. Et peu de temps après cette campagne, un tribunal a décidé de maintenir la position du réseau contre les compteurs prépayés. Mais cette réussite, ce succès n'a pas duré longtemps. La municipalité a interjeté appel de cette décision et la Cour d'appel, comme d'habitude, a jugé en faveur de la municipalité. Donc, on pourrait dire que quand on prend un pas vers l'avant, on est obligé de reculer de deux pas. Donc, c'est bien beau de dire qu'on a eu une petite victoire, mais on l'a perdue. Alors, c'est une lutte, et quand on doit lutter, il ne faut pas se démoraliser, car pas parce qu'on a eu une victoire qu'on nous a enlevé. Hein? Non, et il faut que cela vous donne du cœur et le zèle de lutter encore, de poursuivre la lutte. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé, et nous faisons tous partie du mouvement de Kyoto, de la vague que nous avons commencé. À l'échelle mondiale, l'important, je pense, pour l'eau, c'est à Kyoto, lorsqu'on a déchiré le rapport Kendesus qui a été préparer le terrain pour prendre des caisses de retraite, des fonds de pension pour financer les projets de privatisation de l'eau à l'échelle mondiale. On a mis un frein à tout cela à Kyoto en 2003. Et ça ne s'est pas fait. Mais on est en train de réviser leurs notes et nous devons aussi réviser notre stratégie. Espérons que d'autres reviendront sur ce point, la question de la définition de la privatisation, en prenant garde de penser que la privatisation peut aussi devenir prendre la forme de compagnies publiques qui veulent exploiter une entreprise à des fins lucratives et finalement prendre le contrôle des services de distribution d'eau à l'extérieur d'une certaine région géographique. Alors, dans toutes ces luttes, je vois que j'entends le même message. L'élément clé, c'est la capacité de former des réseaux, de former un mouvement sur la cause de l'eau. Que diriez-vous, Charlie? L'une des stratégies clés qui vous a mené à votre succès, je sais qu'il ne faut jamais abandonner, ne jamais dire qu'on en a assez, mais quoi d'autre encore? J'aimerais que chacun de vous y pense un petit peu. Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Eh bien, pour le syndicat, c'est très important de pouvoir former une coalition et constituer un comité de aux aguets, car on dit toujours que nous défendons nos propres intérêts dans ces luttes contre la privatisation. Mais dans cette année particulière, en 2004, à Hamilton, je pense que c'est les catholiques canadiens pour développement et paix. J'ai oublié l'acronyme. Bon, ces gens-là avaient l'eau comme thème cette année-là. Et ils ont entendu qu'on voulait lutter pour ramener le système de distribution d'eau sous l'égide de public. Ils ont dit, pourquoi ne pas mener une campagne à l'échelle internationale? Pourquoi ne pas nous en préoccuper chez nous? Et ils ont décidé de s'impliquer avec nous dans la campagne. Et ça a été crucial. Donc, aux aguets, la coalition, la mobilisation, autre chose? Je vais peut-être sonner un peu comme Obama, mais c'est la communauté et l'espoir qui sont cruciaux, même s'il est moins populaire dans les sondages. Quand j'ai assumé ce travail au début, j'ai dit, quels sont les thèmes communs dans ces efforts de riposte-là? Et c'est évident que c'est là où les gens avaient encore l'esprit de communauté, que ce soit en Inde ou en Bolivie, les gens s'organisent. Dans les conseils de quartier, il y avait des structures. Les gens connaissaient leurs voisins, ils ont travaillé ensemble, ils se sont réunis, ils ont utilisé ce qu'ils avaient dans l'infrastructure sociale, mais aussi au niveau des outils pour s'organiser et aussi pour lutter contre certains éléments juridiques. Un élément clé, à mon avis, et on l'a vu en Amérique latine, il y avait une prise de conscience latino-américaine partout qu'ils constituaient un seul peuple. Donc, il y avait beaucoup de solidarité. Et puis, l'idée de l'espoir, c'est parce qu'on veut dire que nous nous sommes éloignés comme mouvement de ce à quoi nous nous opposons et nous voulons maintenant proposer ce que nous voulons obtenir. Donc, la question de gouvernance, les partenariats public-public, le travail avec les collectivités, le droit à l'eau, ce sont des choses qui ont émané de... Ce n'est pas une stratégie, ça ne pourrait que dénigrer les choses. C'est essentiellement une vision qu'entretiennent les gens sur la façon dont ils veulent vivre, ce que leur avenir devrait être et sur quoi ils veulent travailler. Alors, ce sont les trois choses que je vois, moi. Je suppose qu'en Afrique, c'est vrai aussi, dans le travail que vous avez fait. C'est une question de créer, d'ouvrir une nouvelle voie pour l'avenir. Et la vision doit donc être importante. Les luttes pour l'eau font partie de luttes encore plus vastes. Oui. Il m'a fallu près de 4 ans pour convaincre ma mère que ce que je faisais était correct. Et que je ne faisais pas seulement des ennemis politiques. Voilà ce qui s'est passé. Je travaillais dans le sud du Ghana et ma mère vit dans le nord du Ghana. Après 4 ans, une année, ils ont manqué d'eau. Et cela coïncidait avec un de nos programmes. Et ça passait à la télé nationale, aux émissions de radio locales. On disait, bon, votre fils va bien, il va se débattre pour nous. Et là, elle m'a appelée. Elle a commencé à m'expliquer qu'elle comprenait maintenant ce que je faisais. Ça, c'est juste ma mère. Alors, c'est pour vous dire à quel point il faut travailler pour convaincre les gens qui ne sont pas directement touchés que ce qu'on fait est important. Et il y a eu des élections au Ghana en 2008 et le gouvernement a changé. L'opposition pour nous était pas mal intéressante. Il a fallu qu'ils souscrivent à la campagne parce que le consortium qui était là ne fonctionnait pas. Et quand on a fait une campagne pour des contrats de gestion et d'autres questions de privatisation, les partis politiques n'ont pas voulu s'en préoccuper. Voilà qu'en 2008, les partis politiques ont décidé de s'impliquer. L'opposition a remporté l'élection et il est intéressant de voir que le jour où le chef de l'opposition devait être assermenté comme premier ministre, il est venu nous voir pour nous demander conseils pour qu'il sache quoi dire lorsqu'il allait rencontrer le comité parlementaire. Eh bien, on ne compte pas ça parmi nos succès, nos réussites, parce que c'est une chose que lui vient de vous voir pour demander des conseils. C'est une autre chose lorsqu'il va là-bas. Il est maintenant ministre. Moi, je ne vais pas à son bureau, mais il faut lutter contre lui parce qu'ils n'ont pas abrogé le contrat de gestion. C'est ce qu'on veut, nous, que ce soit abrogé, ce contrat. Alors, ce qui nous maintient, ce qui nous aide à poursuivre la cause... C'est que dans un secteur de la ville, il n'y avait pas d'eau depuis longtemps du tout. Alors, nous, on a amené 20 parlementaires là-bas pour visiter l'hôpital dans ce quartier pour qu'ils constatent d'eux-mêmes la situation. Après un an après la visite, il y a eu un changement. Alors, si vous voyez des gens qui apprécient ce que vous faites, eh bien, ce n'est pas juste pour votre ego, mais c'est au moins, ça vous permet de comprendre qu'il y a des gens qui écoutent et qui vous entendent. S'ils ne viennent pas dans la rue pour crier qu'ils vous appuient, ça va, mais ils peuvent être chez eux et vous appuyer même sur la rue. Ils vous disent continuez, continuez. Et c'est ça qui nous encourage.
Alors, Carling, tu dois t'y retrouver là-dedans, dans ta campagne, non seulement Whistler, mais le site est 41 et ailleurs. Effectivement. Alors, je voulais parler des stratégies clés. Quelles étaient les stratégies clés, par exemple, qu'on utilisait à Whistler? Et il y a aussi d'autres exemples. Mais je voulais quand même dire qu'à l'époque, j'habitais à Vancouver, je montais à Whistler une fois par semaine. C'est très beau, oui, effectivement. Mais les gens qui faisaient partie du groupe Au secours aux aguets à Whistler, qui a fait une coalition... avec le CFP, ces gens-là travaillent tous les jours, pendant 6 jours, 24 heures par jour. Alors, ils ont fait tous les calculs, etc. Ils ont fait toute la recherche nécessaire. Ils ont fait tout le travail, enfin. Pour ce qui est de nos réussites, je ne veux pas trop ressembler à M. Obama, mais il y avait 3 choses qu'on a réalisées dans ce travail avec les gens de Whistler. D'abord, il fallait être souple et non pas trop sophistiqué. Donc, voilà, qu'on arrive là-bas au moment d'une crise. Je ne savais pas les échéances et tout le reste. Alors, j'avais un ami, Blair Redlin, qui est allé, qui est monté de Vancouver et fait une présentation. Et à ce moment-là, nous avions des informations que nous voulions partager avec les autres sur le fait que le PPP est une porte ouverte vers la privatisation, l'eau privatisée. Alors, on voulait faire le lien avec l'eau potable, ALENA, exportation et toutes les autres menaces. Alors, le conseil municipal, à l'époque, a acheté l'idée, mais pas tout à fait. Et les gens sur place n'ont pas pu voir le lien entre tout cela. Et vous savez bien que quand on travaille dans le monde des égouts, là, c'est pas toujours très glamour, n'est-ce pas? C'est toujours très, très sexy. Alors, les gens ne pouvaient pas faire le lien entre l'eau potable et les eaux usées. Alors, donc, on a laissé ça de côté, cette approche de côté, pour... Ensuite, on a parlé de ces sociétés. On dit, bon, mais voilà, les sociétés... qui peuvent faire le travail, c'est des compagnies qui font de l'eau embouteillée, des compagnies qui vendent de l'eau. Et nous voulions savoir si les gens voulaient adopter l'approche contre le corporatisme. Ça marchait un peu. Ça nous a permis quand même de jeter les bases. Il est vrai que tout ce qu'on disait était vrai, mais ce qui est important dans une telle lutte, ce qui est important... c'est que là où on a vraiment pogné, quand on a parlé de perte du contrôle local et perte d'emploi. Alors, quand on est arrivé au point où la municipalité a demandé aux gens s'ils voulaient ou non un référendum, on a visité la ville pour voir le nombre de résidents. Puisque c'est un lieu de villégiature, il n'y a pas nécessairement beaucoup de résidents. Il y a des gens qui ont des condos, ils sont là à une certaine période de l'année, mais ils ne sont pas nécessairement des résidents. Et les gens voulaient vraiment protéger leur collectivité, leur communauté. Ils connaissaient tout le monde et ils savaient que tel et tel allait perdre son emploi et que l'autre personne allait percer un bon emploi public si on optait pour les sociétés privées. Et ça, c'était très important. Il fallait être souple et il fallait bien sûr sonder les gens tout le temps. Il fallait prendre la température des citoyens à tout moment. Nous avons passé beaucoup de temps à comprendre le processus. Je ne veux pas vous fatiguer avec les détails, même si ça me plaît, mais il y avait un processus alternatif d'approbation des choses qu'il fallait faire. Mais la municipalité devait demander aux gens s'ils voulaient ou non un référendum pour décider si oui ou non on devrait faire le processus de PPP. Et sans l'appui de SFP, on aurait été obligé de faire beaucoup plus de travail pour trouver toutes les chartes municipales, toute la législation afférente et tout. Alors, le SFP était sur place. Il a travaillé avec l'organisme provincial, beaucoup d'appui pour la collectivité. Et c'était vraiment une campagne honnête et décente. Nous avons toujours opté pour une approche candide. Nous étions très clairs et très francs sur nos antécédents, nos assises. On a parlé avec d'autres groupes environnementaux, à Whistler, par exemple. Alors, nous, on n'a jamais rien caché. Pour ce qui est de la façon de recueillir des signatures pour faire prendre la décision, oui ou non, d'un référendum, on a donné beaucoup plus d'informations que la municipalité elle-même. Et on a affiché ces informations partout, dans les entreprises locales, dans les boutiques locales. On a donc touché les citoyens locaux. Alors, on a recueilli beaucoup de signatures, et surtout au dépôt de recyclage des bouteilles. Alors donc, c'était au mois de mai et au mois de juin où les compagnies et le monde politique, qui avaient ses propres intérêts, sont venus contre nous, nous ont attaqués. Ils avaient l'air très cons. Il était clair que c'était des menteurs et nous avons pu éclaircir tout ce qu'ils disaient, dire la vérité et saboter tout ce qu'ils disaient. Alors, quand on a une campagne où vous possédez les informations et où vous êtes robuste et où vous envoyez les informations à tout le monde parce que nous voulions que les gens participent à ce processus démocratique et les gens voulaient participer à ça. Et quand les gens voulaient fermer la porte aux citoyens, les citoyens le sentaient. Alors, grâce à notre franchise et notre candeur, ça nous a beaucoup aidé et on a pu recueillir toutes les signatures en temps. Défendre les emplois, c'est une bonne stratégie, mais voyons. Souvent on dit, non, on ne parle pas d'emploi, on ne parle pas de job. Oh non. Ça, c'est intérêt personnel. Comme si les emplois locaux étaient mauvais. Charlie, pour toi, quelles étaient les raisons à Hamilton? Est-ce qu'on a parlé des accords commerciaux internationaux? Est-ce qu'on a parlé de la privatisation en vertu des accords commerciaux internationaux? Puisqu'il y avait déjà une privatisation, cette porte était déjà ouverte à Hamilton. Mais on ne sait jamais quelle raison va influencer les gens. Ça varie d'une collectivité à l'autre. Alors donc, il est important de voir ce que Caroline a dit. Il y avait deux points au cours de ces 10 années de privatisation que nous avons suivies attentivement et qu'on n'arrêtait pas de répéter. D'abord, il y avait une inondation des égouts et de l'eau. Et la ville était obligée de faire le ménage, nettoyer le tout, et poursuivre la compagnie. Il y a eu un règlement hors cours. On n'a jamais vu les montants payés par la ville ou par la compagnie. Donc, c'était dans le secret. Ensuite, il y avait le contrat d'origine où On disait que toute réparation inférieure à 10 000 $ relevait de la société privée et toute réparation supérieure à 10 000 $ relevait de la municipalité. Donc, il n'y avait jamais de réparation en bas de 10 000 $ jamais à tout jamais. La municipalité a payé toutes les réparations. Et un des conseils municipaux a dit, mais qu'est-ce qu'on a payé pour faire les réparations? La compagnie n'a rien payé. Et là, on a fait une demande d'accès à l'information. On a dit, bon, mais ça va vous coûter 15 000 $ pour avoir accès à ces informations. Alors, immédiatement, on a commencé à faire la cueillette des loonies, des pièces d'un dollar, pour avoir les 15 000 $ nécessaires pour avoir accès à l'information. Mais les conseils municipaux à Hamilton étaient inébranlables. Il y avait un forum public, 30 présentations, une en faveur de la privatisation, 20, tout le monde, tous les autres contre la privatisation, tous les groupes, des syndicats, des environnementalistes, les églises, etc. Ça n'a pas changé l'idée de quiconque. Écoutez, mais le jour de vote, seul le groupe American Water a fait une soumission. Et la ville estimait à 60 millions de $ par année les frais du contrat. Alors, dans le contrat, on a changé la responsabilité pour l'entretien et pour les déversements, les deux choses qui intéressaient les grands publics. Alors, le groupe American Water a fait une soumission pour 39 millions de $ et non pas pour 16 millions. Et la ville a dit non. Non, ça ne marche plus. Et ils ont dit, non, on a une autre soumission. Ici, dans la poche arrière, c'est juste 13 millions de $. Mais si nous n'étions pas là, tout ça aurait été fait en coulisses et ça aurait duré encore 10 ans avec la même merde. Mais puisque le public était aux aguets, même si le conseil municipal ne nous appuyait pas, il aurait fallu changer la soumission et donc c'est revenu aux mains publiques. Un des conseillers de droite était tellement enragé quand il fallait voter pour faire revenir le tout au public, a dit, je veux un rapport à chaque année sur les fonctionnements. Alors, chaque année, il y a un rapport sur les économies faites par ce fonctionnement dans les mains du public. Et on a parlé de l'amélioration de la qualité de l'eau, etc. Donc, ils ont économisé des millions de $ et la qualité est meilleure. Écoutez, sur la scène internationale, dans d'autres pays, est-ce qu'on trouve toujours les mêmes raisons? Ce que j'entends toujours au Canada, c'est cet argument, cette raison de transfert des risques. Si on est dans nos secteurs privés, on va transférer les risques. Les risques vont passer du public au privé. C'est ça qu'on entend toujours chez nous. Mais on sait que c'est de la merde. C'est pas vrai, comme Charlie vient de le dire. Quand la municipalité est obligée de faire tout le nettoyage et faire le ménage... Est-ce qu'on trouve les mêmes raisons dans d'autres pays? En Amérique latine, est-ce qu'on entend les mêmes choses en Afrique? Il est un peu plus difficile de dire ça, parce que souvent les risques sont plus élevés, parce que les compagnies foutent le camp. Vous avez vu ce qui est arrivé à Cochabamba. Quand ça ne marchait pas, la société a foutu le camp en Argentine. Quand le peso ne valait rien... Et la communauté était payée en peso, ils ont perdu beaucoup d'argent. Alors, les compagnies ont tout simplement foutu le camp parce qu'il n'y avait plus de profit. Alors, on ne dit pas ça dans d'autres pays, mais souvent, il s'agit des questions, c'est de soulever les fonds nécessaires. Oui, mais c'est pas vrai, parce que nous savons tous que les compagnies privées payent très cher la capitale. Les municipalités payent moins cher, un taux d'intérêt privilégié. Et un pays a un taux d'intérêt préférentiel, beaucoup mieux que le taux d'intérêt payé par le privé. Alors donc, ces raisons ne sont pas bonnes, mais ça ne les arrête pas, parce qu'on traite avec des êtres humains, et ce sont... Il y a de la corruption possible. Il y a aussi un esprit d'âme... des paradigmes qu'on voit dans la Banque mondiale, Fonds monétaire international, des accords commerciaux. Il y a toutes sortes de gimmicks. Et même si on est en crise économique, comme Maud l'a dit tout à l'heure, on veut avoir plus de maladies, davantage de maladies. Il faut foncer encore plus loin, il faut dépenser plus, il faut donner plus au privé, il faut privatiser encore plus. Je pense que nous allons avoir des déficits énormes, dettes énormes, budget rétréci, parce qu'il faudra payer plus pour le service de la dette. Et ça va être l'excuse pour les gouvernements de donner des clés au secteur privé. Et nous serons essentiellement des locataires chez nous de nos propres biens. Alors, étant donné les risques politiques qu'on a vus dans le Sud avec ce tollé contre la privatisation, les compagnies se sont tournées vers le Nord, en partie parce qu'ils croyaient que nous n'avions pas d'échine, que c'était peu important dans le budget global chez nous, etc. On avait une vie trop individualiste. Nous n'étions pas organisés, mais la preuve, c'est le contraire. Quand on a vu Whistler, au site 41, à Hamilton, on a prouvé que les Canadiens peuvent s'organiser, que les Canadiens veulent s'organiser. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'utiliser les outils qu'on possède. Il faut être bien mobilisé, il faut voir des gens des différents secteurs qui collaborent ensemble avec une prise de conscience collective et des bonnes communications entre nous. C'est ça, là. Alors, il s'agit de la coopération.
Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu. Le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des Canadiens ont organisé le sommet pour souligner le 10e anniversaire de la coalition Aux Aguets. Il a eu lieu à Ottawa du 27 au 29 novembre 2009.